C'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, qui peut sortir le Sri Lanka de la crise ?
Oui, une session parlementaire de 2 jours n'a pas trouvé d'issue à la double crise économique et politique que traverse cette île de 22 millions d'habitants au sud de l'Inde. Le président Rajapaksa a demandé dimanche à son gouvernement de démissionner collectivement, gouvernement où figurent de nombreux membres de sa famille par ailleurs. Puis lundi soir, des centaines d'hommes et de femmes ont pris d'assaut les bureaux présidentiels, exigeant du chef d'État qu'il quitte le pouvoir et le pays tant qu'à faire pour retourner aux États-Unis puisqu'il possède la nationalité américaine. Il est minuit 44 à New York où vous êtes, Raphaël Kahn. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à la City University de New York, chercheuse associée au Centre Asie de Harvard et à l'IRSEM. Raphaël Kahn, comment les milliers de Sri Lankais qui manifestent depuis plusieurs jours à Colombo et dans d'autres villes du Sri Lanka sont-ils affectés, à la fois personnellement et collectivement, par la crise économique ?
Alors, il faut savoir que l'économie sri-lankaise est actuellement dévastée. C'est la pire crise économique que le Sri Lanka a eue depuis son indépendance en 1948. Et donc, très concrètement, ça se traduit par le fait que la population manque de tout. Donc, pour revenir juste un peu en arrière, et c'est une autre dimension de cette crise, le PIB du Sri Lanka a reculé massivement de 3,6% en 2020, ce qui vous montre que c'est une crise qui date déjà depuis 2 ans. Mais le point d'inflexion, ça a été que très récemment, le gouvernement n'a plus de réserve de change et de dollars pour importer des biens vitaux parce que sa dette est trop forte, qu'il ne peut plus rembourser ses dettes extérieures. Pour vous donner une idée, on pense qu'il n'aurait plus que 500 millions de réserves extérieures alors qu'il aura besoin de rembourser 7 milliards d'ici la fin de l'année. Mmh. Et donc très concrètement, ça veut dire qu'il y a une pénurie à la fois en produits agricoles, en produits de base, riz, lentilles, sucre, en médicaments et en pétrole, parce qu'on a en plus une inflation galopante complètement inédite de 19%. Qui est la plus haute en Asie et qui fait que les produits qui restent sont complètement inabordables pour la population. Juste pour vous donner un exemple, le prix du riz a augmenté de 100% en 3 ans et le prix du pétrole a augmenté de 100% en 1 an. Donc c'est vraiment une situation catastrophique.
Catastrophique, et on parle de risque de famine. Alors pourquoi une telle faillite, une telle crise maintenant, puisque vous le disiez, ça a commencé en 2020, peut-être même avant la pandémie de Covid-19, qui n'explique pas tout?
Alors, c'est une crise à multifacteurs. Il y a à la fois donc le point d'inflexion actuel, qui est le fait que le gouvernement n'a plus de réserve de change. Mais il y a des facteurs de plus long terme et les facteurs se sont accumulés. Donc, à plus long terme, à la fin de la guerre civile en 2009, le gouvernement, pour reconstruire le pays, a commencé à prendre des prêts massivement. Et à ça, s'est ajoutée une détérioration de la situation ces 2 dernières années avec le retour au pouvoir de la famille du clan dynastique Rajapaksa, qui est un gouvernement ultranationaliste et assez corrompu et qui a, de manière chronique, mal géré l'économie. Et il y a 2 décisions en particulier qui ont vraiment eu un effet catastrophique en 2019 et 2021. Le premier, c'est qu'en 2019, le gouvernement a radicalement baissé des impôts et des taxes, ce qui a bien sûr réduit les recettes de l'État juste avant l'épidémie de Covid. Et la 2e décision a mené à une dégringolade de la productivité agricole l'année dernière, qui a aggravé la situation. Et alors, en plus de ça, on a eu la crise du Covid, qui a eu un effet majeur sur le tourisme, qui est l'une des sources de revenus principales du Sri Lanka. Le tourisme avait déjà été affecté par les attentats de 2019. Et donc, pour donner le tourisme, c'est 10% du revenu au moins du Sri Lanka. Et bien sûr, le Covid a aussi amené une inflation générale dans le monde qui a fini de complètement détruire les perspectives économiques du Sri Lanka. Et donc, c'est vraiment un nombre de facteurs importants.
Et un facteur auquel on ne pense pas aussi, la guerre en Ukraine, qui a un effet pour le Sri Lanka.
Alors, la guerre en Ukraine a eu effectivement un effet. En fait, il a eu 2 effets. Le premier, c'est qu'elle a fait monter le prix du pétrole. et le prix du blé. Et ça a impacté, le Sri Lanka était déjà dans une mauvaise situation. Et il se trouve que les touristes russes et touristes ukrainiens étaient une source importante de touristes au Sri Lanka, qui commencent à revenir post-attaque terroriste de 2019. Et bien sûr, avec la crise en Ukraine, ces touristes ne viennent plus.
Vous parliez tout à l'heure, Raphaël Kahn, de mesures prises par le gouvernement qui se sont révélées aggravantes, donc les réductions d'impôts juste avant la pandémie, et une mesure, disiez-vous, qui a affecté l'agriculture du Sri Lanka. Il s'agit de l'interdiction depuis un an d'importer des produits agrochimiques, donc ce qui veut dire que la production au Sri Lanka dépend beaucoup de produits phytosanitaires, la productivité au Sri Lanka. Qu'est-ce qu'il produit, le Sri Lanka? Parce que pourquoi est-il aussi dépendant des devises extérieures, puisque le problème numéro aujourd'hui, c'est ce manque de réserves extérieures.
Alors actuellement, le Sri Lanka a besoin donc d'importer du riz. Alors jusqu'à en fait, pendant longtemps, il a été autosuffisant dans sa production de riz. Mais la mesure de l'année dernière concernant donc justement l'interdiction de l'importation d'engrais chimiques a eu pour effet. Alors à l'origine, c'était présenté comme une manière de promouvoir l'agriculture biologique. En fait, c'était pour économiser des réserves de change. Et en fait, l'effet a été désastreux parce que les paysans n'étaient pas préparés à cette évolution. Et donc, du coup, le Sri Lanka s'est retrouvé à devoir importer des choses qu'il n'avait pas besoin d'importer à l'origine. Et il a eu besoin d'autant plus de devises extérieures que le désastre de l'agriculture de l'année dernière a affecté la production de thé, qui était l'une des choses que le Sri Lanka exportait traditionnellement à l'étranger.
Qui peut sortir le Sri Lanka de la crise? L'invité des enjeux internationaux est la chercheuse Raphaël Kahn.
On sait combien, Raphaël Kahn, Chine et Inde sont investis au Sri Lanka avec des intérêts bien compris. Vous nous en aviez parlé d'ailleurs dans les enjeux internationaux entre l'Inde qui investit dans des projets d'infrastructure et de développement, notamment dans des projets ferroviaires, des projets de construction de logements, surtout dans le nord et dans l'est du pays où sont concentrées les populations tamoules, et avec la Chine qui investit massivement au Sri Lanka depuis 2005, hein, quasiment, même si le projet des routes de la soie commence officiellement en 2013. Alors, est-ce que la Chine et l'Inde essaye aujourd'hui d'aider le Sri Lanka?
Alors, c'est pas si clair des deux côtés. C'est-à-dire que, effectivement, comme vous le disiez, la Chine est massivement investie au Sri Lanka. C'est en fait le plus gros créancier bilatéral du Sri Lanka. Pour vous donner une idée, environ 10%, peut-être plus, de la dette du Sri Lanka est due à la Chine. Le Sri Lanka a demandé de l'aide à la Chine récemment, mais la Chine ne s'est pas encore engagée. Il y a plusieurs hypothèses sur pourquoi elle ne s'est pas engagée. L'une d'entre elles serait que ça pourrait donner un signal, ça pourrait créer un mauvais précédent pour tous les autres pays qui ont contracté des prêts envers la Chine. Dans tous les cas, le pays qui s'est engagé, c'est l'Inde. Et l'Inde a offert un nombre de lignes de crédit au Sri Lanka. Le week-end dernier, a envoyé du carburant au Sri Lanka. Et c'est très intéressant parce que ça montre aussi comment cette lutte d'influence entre ces deux géants dans cette petite île est en train de se jouer aussi dans le cadre de cette crise, à travers l'attitude, en tout cas, que l'Inde prend envers le Sri Lanka actuellement.
L'Inde qui commence par ailleurs à recevoir, à accueillir quelques réfugiés sri-lankais de cette crise économique. Alors Raphaël Kahn, le président Gotabaya Rajapaksa s'est tourné vers le FMI, le Fonds monétaire international. Est-ce que c'est une première et quel débat ça a occasionné sur l'île?
Alors effectivement, il s'est tourné alors que pendant longtemps le gouvernement ne voulait pas avoir recours au FMI et là il a dû engager des négociations. Et effectivement, ce n'est pas la première fois puisque en 2009, le gouvernement était déjà allé demander un plan de sauvetage au FMI. En 2016, il en avait demandé un autre. Et bien sûr, le fait de retourner demander à négocier un plan de sauvetage va affaiblir encore plus le gouvernement et va très certainement avoir des répercussions très importantes pour le Sri Lanka dans les mois et années à venir.
Répercussions aussi politiques, on l'imagine. Quelles sont les conséquences politiques aujourd'hui au sein du gouvernement sri-lankais? Alors, des défections dans le camp du gouvernement, d'ailleurs des défections massives. Pourquoi l'opposition, en revanche, refuse, ça lui a été proposé par Rajapaksa, l'opposition refuse de participer à un gouvernement d'union pour trouver une solution ensemble?
Alors effectivement, non seulement l'opposition refuse, mais l'opposition a manifesté dans Colombo dimanche dernier. Et donc, on a une pression parlementaire qui s'ajoute à la pression de la rue contre le gouvernement Rajapaksa. Et l'une des raisons, à mon sens, c'est en partie parce que le gouvernement a toujours agi assez autocratiquement sans consulter personne. Et donc aujourd'hui, maintenant que la situation est critique, il voudrait que d'autres acteurs prennent responsabilité pour cette situation critique. Et pourquoi est-ce que l'opposition le ferait? D'une certaine manière, c'est assez facile à comprendre la perspective de l'opposition.
Et ce clan des Rajapaksa, vous nous le disiez tout à l'heure, Raphaël Kahn, parce que le président gouvernait avec son frère, premier ministre, je crois que c'est le ministre de Finances aussi, qui est aussi quelqu'un de la famille, le cousin, le petit-fils, enfin bon, bref, ils sont tous à peu près au sein du gouvernement. C'est nouveau qu'ils s'ouvrent comme ça à l'opposition?
En fait, le régime a vraiment été caractérisé par une concentration des pouvoirs, et comme vous le disiez, le Premier ministre, le président, le ministre des Finances qui vient de démissionner, étaient des membres. En fait, sont trois frères. Le fils du Premier ministre était aussi dans le gouvernement. Effectivement, ça montre la situation assez désespérée dans laquelle se trouve le gouvernement aujourd'hui.
Opposition par ailleurs accusée d'avoir elle-même ruiné le pays entre 2015 et 2019, si je ne dis pas de bêtises, Raphaël Kahn, quels sont les moyens, est-ce que l'île a quelqu'un, enfin, quels sont les moyens aujourd'hui économiques et politiques pour régler la crise à court et plus long terme?
Effectivement, c'est une situation très compliquée parce que le risque, c'est plutôt que la crise continue de s'amplifier et que l'inflation continue de monter. Donc, à court terme, il n'y a pas vraiment de solution claire, à part le fait que le Sri Lanka va négocier avec le FMI. Bien sûr, le coût de cette restructuration de la dette, qui ne concernera pas que le FMI, va dépendre de comment elle sera négociée. Espérons que le coût ne soit pas trop fort, mais le fait que le Sri Lanka soit au bord d'un défaut de paiement, et que s'il était en défaut de paiement, ce serait le cinquième pays depuis le début de la crise à être en défaut de paiement, soulève quand même le problème de ces pays, de ces économies émergentes vulnérables. Et je pense que ça devra amener à réfléchir à une solution plus globale sur comment aider ces pays post-crise Covid.
Merci beaucoup,
Raphaël.
Parce que
la crise Covid est quand même très liée à ça.
Merci beaucoup, Raphaël Kahn, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheuse à la City University de New York et chercheuse associée au Centre Asie de Harvard et à l'IRSEM. Et vous étiez en direct avec nous de New York.